juste physiquement, elle est donc noire d'apparence ou elle est quoi? Café au lait, le mixage de sa maman?
Exactement, elle est café au lait. Elle dit, je suis à peine un peu plus brune que ces jolies brunettes que vous aimez beaucoup, qui sont des blanches, méditerranéennes ou je sais pas quoi. Donc elle n'est pas très... Apparemment, elle n'était pas très noire, non?
Mais quand même, pour que son livre ait pour titre « Je suis une mâle blanchie », c'est que ça a quand même eu un certain poids dans son existence. Le fait de, elle, se sentir blanche, occidentale, et puis en même temps, pas comme il faut, blanchie.
Elle est, oui, mais ça c'est là, ça c'est le titre français. Ah. Dans son livre est intitulé « Les merveilleuses aventures de Mary Seacole ». C'est exactement Wonderful Adventure of Mrs. Seacole in Many Lands. Hein? Alors ça c'est quelque chose qui a été mis en français. Mais effectivement, elle se rend bien compte là-bas qu'on ne veut pas l'accepter dans le corps parce qu'elle n'est pas une Anglaise de pure souche. Et elle, à ce moment-là, elle décide d'y aller quand même, mais à son compte. Et d'ailleurs, sa traductrice... et qui fait une très bonne introduction au livre, dit que probablement son succès et sa notoriété ont été possibles parce qu'elle est allée justement seule et qu'elle n'est pas restée comme les autres infirmières, au fond, assez loin des champs de bataille, où était la logistique, je ne sais pas, médicale, mais que comme elle s'est trouvée, elle était vraiment sur le bord des champs de bataille, au combat, elle a d'abord soigné et connu beaucoup plus de monde et qui l'ont fait connaître. Parce qu'elle a soigné et sauvé beaucoup d'officiers, par exemple, importants, qui plus tard l'ont célébré à la fin de la guerre à Londres et l'ont aidé à sortir de ses malheurs financiers. Parce que, évidemment, elle est allée là-bas, elle a dit, comme d'habitude, je vais ouvrir un hôtel. Et puis là, je vais soigner les gens. Et je vais en même temps leur offrir la possibilité peut-être de manger un peu mieux qu'à la tambouille militaire. Et parce que c'est quand même encore une guerre du 19e siècle, hein. C'est pas une guerre du 20e siècle. Il y a encore des moments où on arrête de faire la guerre, où on prend le temps de manger, etc., même de faire des soirées de temps en temps. Alors, elle va ouvrir son hôtel sur les bords d'un champ de bataille. Je me souviens plus comment elle s'appelle, une colline qui est restée aussi célèbre dans cette guerre. Et puis là, alors évidemment, elle est tellement maligne, elle est tellement débrouille que elle se procure des biens que nul autre épicier dans la région ne peut avoir. Donc elle est capable, par exemple, d'avoir de la glace l'été. Elle fait des limonades qui sont très appréciées. Et puis elle offre de la confiture, alors qu'on trouve pas assez bien généralement. Ils sont extraordinairement appréciés et surtout elle a une manière très chaleureuse de s'occuper de ces soldats qui sont loin de chez eux, qui passent des étés et des Noëls loin de leur foyer, qui sont quelquefois très mélancoliques, très déprimés. Et puis elle leur apporte toute cette chaleur un peu de sa culture aussi, des Caraïbes, son humour, et puis ça. Et puis une manière de faire très bien la cuisine, et puis de savoir soigner grâce à sa grande expérience justement du choléra, de la malaria, enfin de grandes épidémies qu'elle a connues en Amérique centrale qu'elle a soignée, là au Panama, et qui sont à peu près les mêmes qu'elle retrouve pendant la guerre de Crimée. Elle soigne aussi les blessures, mais elle soigne plus les épidémies qui proviennent de la saleté ou de, je sais pas moi, des chairs en décomposition et ce genre de choses.
Mais donc finalement, quand on dit mal blanchie, c'est plus son tempérament qui fait d'elle une mal blanchie. Elle a une façon d'être, une énergie qui ressemble pas avec les culs pincés des blancs à cette époque-là. Ou des femmes peut-être qui prises dans un carcan peut-être beaucoup plus rigide parmi les blancs, et en tout cas la bonne société londonienne, que elle n'avait dû vivre jusqu'à ce moment-là aux Caraïbes ou en Amérique du Sud.
Mais aussi, elle a pas, elle dit, j'ai pas cette indolence qu'on reproche souvent aux aux gens des tropiques. Donc elle pense que c'est son petit côté, son sang écossais, parce que son père c'était un écossais, c'est son sang écossais qui lui donne cette envie de toujours aller chercher plus loin, cette curiosité pour les gens et les choses. Ce qu'il a poussé en avant comme ça, sans arrêt. Alors, voilà, ça c'est un peu notre aventurière du 19e qui se distingue aussi parce que c'est... On connaît d'autres aventurières du 19e qui sont des bourgeoises et qui ne joueraient jamais, n'essayeraient jamais de gagner leur vie comme des épicières, même si elles avaient besoin à un moment donné d'avoir de l'argent, qui resteront toujours quand même des bourgeoises un peu en crinoline. Tandis que Mary Seacole est de la même époque, mais c'est une aventurière plébéienne, si je peux dire, tout en étant capable de, comme elle le fait là, à la fin de la guerre de Crimée, de tenir très bien sa tasse de thé quand elle est invitée au palais de Buckingham, parce qu'elle va être invitée. Il y aura même un grand bal donné par la cour en son honneur pour tout ce qu'elle a fait justement pour les soldats anglais qui attendraient de mourir en Crimée. Et puis, il y a une dernière chose que j'aimerais dire à propos de ce livre, qui est aussi très, très intéressant. C'est comment elle explique la population qu'elle trouve à Panama, qui est composée, disons, en gros, de deux grands groupes de population. La population noire, qui vient en fait des plantations du sud des États-Unis, qui sont des esclaves, qui ont fui l'esclavage et qui ont été capables d'abord de s'opposer à l'esclavage et puis de réussir une fuite, ce qui n'était pas toujours le cas, donc, et qui sont arrivés au Panama et qui ont souvent supplanté les autorités indigènes indiennes parce que, étant des gens tellement forts qui avaient résisté justement à une fuite, qui avaient résisté à leur maître blanc, avaient un tel prestige, d'une certaine manière, aux yeux des Indiens, qu'ils les ont laissés prendre la place. Si bien qu'à l'époque dont on parle, ces Noirs qui souvent avaient commencé leur vie comme esclaves sont les maires, les policiers locaux, quelquefois même... Ils ont un certain pouvoir, ils apportent leur religion aussi, qui est alors plutôt de style protestant, face aux Indiens catholisés là, qu'on trouve au Panama. Alors il y a cette population noire qui est dans les postes dirigeants, et qu'elle admire beaucoup, hein, Mary Seacole, parce qu'elle trouve qu'avoir été capable de faire ça, de fuir les blancs racistes yankees là, du sud des États-Unis, c'est extraordinaire. Puis d'un autre côté, il y a la population d'origine, si on peut dire, qui sont des Indiens, et qu'elle, alors, elle trouve, et là, on peut dire qu'elle partage les préjugés des Anglais. Elle est une bonne fille d'Albion, comme dit celle qui l'introduit. Elle les trouve superstitieux, papistes, hein, c'est des catholiques. Elle est protestante, évidemment, elle est partie de l'église anglicane. Et alors, ces Indiens sont perdus dans leur superstition, et sont tout de suite abattus, enfin, ne se battent pas, ils sont fatalistes, enfin, ils ont tous ces... Voilà, elle ne les voit que comme ça. Donc elle dit, c'est assez normal que ces beaux grands noirs qui sont évadés des plantations du Sud soient devenus... au fond, les maîtres du pays, parce que ces Indiens ne font pas le poids en face. Hein. Alors, on a ces deux... Alors, voilà. Alors, elle, c'est comme ça qu'elle explique les choses. Et d'ailleurs, elle montre comment les blancs de passage, comme on a vu, qui sont pas toujours très fréquentables, hein, qui passent là... sont des fois sont des contrevenants aux lois locales. Par exemple, elle raconte le cas d'une femme qui arrive avec son esclave et qui la bat affreusement, et les autorités locales ne supportent pas ça et déclarent font venir les deux femmes devant une autorité, un juge, je sais pas, qui est un noir d'ailleurs, hein, qui est un ancien esclave et qui est devenu un juge noir, et qui dit à l'esclave qu'elle est libre maintenant puisqu'elle est au Panama et puis que là, il n'y a pas d'esclave, et qui renvoie l'esclavagiste blanche chez elle sans plus de procès. Mais Marie-Cy Cole, évidemment, elle est enchantée quand elle raconte ces histoires. Donc, comme tu vois, c'est un livre vraiment truculent, quoi. Et en même temps, qui apporte quand même des informations intéressantes, hein, sur une manière d'être. Puis comme tu avais une manière de voir les femmes et aux certaines femmes à l'époque dans cette région du monde. Donc voilà, c'est pour les gens qui s'intéressent à ce genre d'aventure, c'est vraiment un livre très intéressant. On rappelle juste le titre encore. Hein. Oui. Je suis une mal blanchie de Marie-Cy Cole et c'était publié chez Phébus au début de cette année.
Elle nous donne très envie, n'est-ce pas, Annette ?
Comment dire, plusieurs exemplaires à la librairie pour toutes les lectrices qui ont envie de s'évader pendant les vacances.
Téléphonez pour faire vos réservations, chères auditrices.
Pas seulement au Panama, mais puisqu'elle est allée même jusqu'en Crimée.
Voilà. Alors, une petite pause musicale avant de nous embarquer dans un tout autre monde, celui de Rosetta Loy.
Effectivement, un autre monde.
Rosetta Loy, Annette, une écrivaine italienne dont nous avions déjà parlé effectivement dans cette émission. Nous avions lu toutes en cœur Route de poussière. Et tu nous avais présenté son deuxième roman, À l'insu de la nuit, aujourd'hui, troisième roman, Rêve d'hiver.
Enfin, disons qu'à l'insu de la nuit, il s'agissait plutôt d'une série de nouvelles qui avaient donc un thème commun, qui était la déclaration de la guerre en 1939 et la façon de la nuit qui s'ouvre effectivement pour l'Italie, pour les gens, au moment de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Et de nouveau, dans ce livre, nous sommes à cette époque-là. C'est l'héroïne principale qui s'appelle Asia, est née un petit peu avant la guerre, dans les années 20-30, ça reste encore un petit peu mystérieux. En tout cas, elle est adolescente pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle vit à Rome, une Rome écrasée par les fascistes et dans laquelle elle se sent évidemment très très mal. Et Rosa Taloi nous présente en somme deux générations, la mère d'Asia qui s'appelle Daria. Alors on devine bien sûr que c'est une exilée russe qui a quitté la Russie en 1917, elle-même, à cette époque-là elle était elle-même petite fille, et qui est une femme évidemment très fantasque, qui veut vivre sa vie d'une manière assez personnelle et qui a une vie difficile. Elle s'occupe fort mal de cette petite fille Asia, qui est donc dans la deuxième partie du livre, dont on ne parle que d'elle. Et pendant toute la première partie, on parle d'abord de la mère, mais en fait, c'est pour mieux nous présenter l'héroïne principale, cette jeune femme, Asia. Il faut dire que le livre se déroule sur un très grand nombre d'années. Donc, Asia, nous la découvrons donc toute petite fille, à la limite avant sa naissance, puisqu'on nous présente d'abord le mariage de sa mère avec un jeune diplomate fasciste italien. Et à ce moment-là, la jeune exilée russe a cru qu'elle arriverait au statut qu'elle voulait et tout s'écroule. C'est d'ailleurs un petit peu, il me semble, une des qualités de ce livre, c'est de montrer sans jugement aucun la difficulté de réaliser une destinée. Très souvent, au début, on se dit ces gens, ils ont tout. Ils sont beaux, ils sont originaux. Ils ont des envies, ils peuvent les réaliser, ils partent faire les voyages. Ça sera difficile la vie, mais ils y arriveront parce qu'ils sont purs, ils sont très purs, les héros de Rosa Taloi. Et tout à coup, ça casse. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça peut être différent chaque fois. Parfois, ils supportent et parfois, ils ne supportent pas. Et c'est seulement à la fin du livre qu'on saura jusqu'à quel point Daria, donc la mère, a supporté et comment Asia supportera ou ne supportera pas le poids de l'existence. Et elle a une façon de raconter qui est extraordinaire. Elle a énormément de pudeur face à ses personnages. Elle met tout d'elle-même et en même temps, elle les crée, c'est vraiment des créations de personnages. Ça me serait absolument impossible de dire, bon, je ne connais pas vraiment la vie de Rosa Taloi, mais on n'a pas l'impression, elle met ce qu'elle connaît de la vie, mais elle ne se met pas elle-même dans les personnages. Et il me semble que c'est ça, entre autres, qui fait la grandeur de ses récits, parce qu'elle pourra toujours nous raconter d'autres histoires. Et c'est à ça que j'aimerais, entre autres, m'attacher. Je suis d'ailleurs un petit peu étonnée du fait que cette femme écrivain ou écrivaine, soit si peu connue en Suisse. Elle a quand même déjà publié, enfin, trois livres ont été traduits, sont apparemment excellemment traduits. Ce n'est pas des grandes éditions, c'est vrai, c'est des éditions qui ne sont pas très connues, et on n'en a pas entendu parler. Ça m'étonne beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est effectivement une grande écrivaine d'aujourd'hui, et que ses livres vont rester.
Mais en Italie, elle a eu des prix.
Ouais, en Italie, elle est reconnue comme une femme écrivaine de classe, si je puis dire. Mais je trouve effectivement regrettable que dans la francophonie, on en parle si peu.
Vous vous en êtes rendu compte, par exemple, à la librairie, c'est des livres qui sont peu achetés.
Ils ne sont pas du tout demandés. On n'a jamais un compte rendu dans un autre journal que le nôtre. Et même, j'ai demandé plusieurs fois à des amis italiens s'ils la connaissaient. Même eux ne la connaissaient pas forcément. Ce n'était pas quelqu'un dont ils avaient entendu parler. Elle reste encore dans une... Elle est un peu méconnue, étonnamment. Parce que la qualité qu'elle a de présenter les histoires, ça, c'est vraiment extrêmement dense.
et en même temps, c'est très créatif, c'est très profond. Les sentiments des personnages sont... On les sent très, très profondément, et en même temps, c'est très simple la manière dont elle les décrit. Alors, je crois que je vais vous lire un petit passage. Moi, j'aimerais pouvoir parler de ma vie comme elle parle de la vie quotidienne de jeune couple. Je vais prendre un petit passage où un ami d'Asia, un collégien avec qui elle est partie en voyage à une époque, qui était manifestement très amoureux d'elle, mais ils vont rater justement la rencontre amoureuse. Et Federico, ce jeune homme, va épouser une autre jeune femme qui a eu un destin tout à fait différent de celui d'Asia. Des locations de vacances avec des meubles sans histoire, toujours prêts à perdre une poignée et obstinés dans leur refus de s'ouvrir. Le sable incrusté depuis des décennies dans les interstices. La pénurie d'eau chronique occupait une bonne partie des conversations de la journée, ainsi que les matelas trop durs ou trop mous, les oreillers en mousse sur lesquels la tête semblait rebondir. Des habitations si petites qu'ils finissaient toujours par se cogner les uns dans les autres, et les enfants ne cessaient d'entrer et sortir, les voix se superposaient, et les parois minces ne laissaient plus aucune place au silence. Ils vivaient et mangeaient, se disputaient, faisaient la paix, dans une promiscuité insolite qui englobait les enfants des voisins, les amis arrivés là pour la nuit, l'ami d'un ami qui n'avait pas trouvé où dormir. Et puis il y avait des journées où le vent grandissait sauvage et le sable tourbillonnait et piquait comme des aiguilles jusqu'au moment où un coup plus fort arrachait le parasol et le faisait rouler au loin avec les chapeaux. Les serviettes de bain s'envolaient dans l'eau. Alors il fallait s'en aller vite, vite, ramasser les pelles et les seaux et le sable s'insinuait dans les sacs, dans le fromage et dans le pain, craquait sous les dents. Ces jours-là, parfois, ils grimpaient au sommet du promontoire hérissé de plantes épineuses et de pierres. Et ils regardaient d'en haut la mer exploser sur les rochers, les embruns pulvérisés par le vent montés jusqu'à eux. De petits lézards gris disparaissaient entre les pierres. Dans la descente, Marion chantait en donnant la main aux enfants, pendant que Federico, impatient, se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir de si gai à chanter là-haut, les épines qui lui piquaient les pieds à travers ses sandales de corde, le vent qui faisait pleurer les yeux. Alors moi, je trouve que c'est une façon de raconter la vie quotidienne avec des mots extrêmement simples et qui rappelle à chacun d'entre nous, je pense, certains événements de vacances. Et tout le livre est construit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de passages où elle nous parle de cette vie quotidienne et tout à coup, il y a autre chose, c'est la fêlure psychologique de certains personnages, ou bien certaines allusions, et ça j'aimerais bien vous lire aussi un passage, certaines allusions à l'époque dans laquelle elle vit. Et on se rappelle qu'à l'insu de la nuit, l'époque était effectivement très très importante. C'était cette nuit fasciste qui est tombée sur l'Europe et l'Italie en particulier. Et elle, là, c'est après la Deuxième Guerre qu'il y a pas mal de... La principale partie du roman se déroule dans les années entre 45 et 60. Et elle a une façon d'incruster son livre dans la réalité, disons, sociale et politique, qui est extrêmement forte et en même temps extrêmement sensible. Alors j'aimerais vous lire là un petit passage. Pendant ce temps, le sang a commencé son parcours labyrinthique ainsi qu'une eau légère qui peu à peu grossirait. Il tâche les journaux accrochés dans les kiosques. Il s'étale en petites mares dans les téléviseurs allumés au crépuscule et au fond de la nuit. Dense, visqueux, aussitôt noir. Autrefois, il ne pouvait que l'imaginer, n'ayant pas fait la guerre, ni subi aucune violence. À présent, le premier étonnement passé, il devient un envahisseur caché qui s'attaque à l'âme. C'est comme de se trouver tout à coup à l'intérieur d'un intestin en émoi agité de contractions irrégulières, boyaux travaillés par des nourritures infectes longtemps restées tapies et qui, dans leur digestion chaotique, emportent avec elles les années Marion. Des années que Gagarine et Shepard avaient fêtées en volant haut dans le ciel et la petite Laïka s'était perdue dans le firmament. Qu'avait-il pu rester d'elle ? Minuscules fragments de tarse et de métatarse, poussière d'eau de chien. Voilà.
C'est fou.
fou parce que je trouve qu'ici, une autre façon d'écrire, une sorte de lyrisme par rapport au passage que tu nous as lu précédemment, qui est très différent là.
Bon, c'est un petit peu difficile d'analyser la texture littéraire d'un roman de ce genre, mais de toute façon, il y a quand même constamment des notations où le vocabulaire, la touche lyrique est très très importante, ça c'est sûr.
Et ça, c'est un fil conducteur que tu retrouves dans ces trois livres, c'est ce qui fait que tu aimes Rosetta Loy, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais choisi ce livre par en plaisir de savoir ce qu'elle avait pu réécrire maintenant. Il y a cette fidélité à cet auteur pour toi, tu retrouves quelque chose qui te fait avancer chaque fois un peu plus, il n'y a pas cette idée de la répétition, comme tu disais parfois il y a un remake.
Parfois on choisit un livre d'un auteur qu'on connaît déjà. Et puis on est un peu déçu. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en me disant oulala, là là, c'est un véritable remake. Souvent, des gens partent sur une idée, réussissent une première œuvre, et puis aussi c'est la découverte. Alors, on trouve ça assez amusant ou assez intéressant, et ça ne tient pas la route. C'est souvent d'ailleurs très très difficile. C'est assez amusant de se dire qu'il y a certains livres qu'on a trouvé formidables il y a quelque temps, et quand on les relit, on se dit ouf, ça n'a plus du tout autant d'impact sur soi-même. Ça, c'est le mystère de la littérature. Hein, il y a pas mal de recherches à faire dans ce domaine-là. Pour Rosetta Loy, justement, moi je n'ai jamais été déçue par ces livres, et en fait, ce troisième que je lis, il m'a encore plus enchantée, en fait, que les deux autres. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je la connais mieux, j'en sais rien, je ne pense pas du tout que c'est ça. Le livre est d'une densité encore plus forte, il est long, on suit les personnages à travers plusieurs années de leur vie, et ça donne aussi un autre caractère à ce roman. Encore quand dans Les Routes de Poussière, c'était aussi une saga qui durait pendant au moins 50 à 60 ans. Je crois que c'était aussi du grand-père à la petite fille.
Oui, il me semble bien que tu en suivais en tout cas toute la vie d'une femme.
Là, le fil conducteur, c'est donc l'histoire d'Asia, qui est petite fille jusqu'à la fin de son existence de femme qui n'est plus jeune. Je ne vais pas vous raconter la fin parce que je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut déguster, qu'il faut découvrir, et même pas déflorer. Je crois que ça, c'est très important de pouvoir suivre la vie des personnages dans tout ce qu'ils ont de mystérieux aussi. Et je crois que ce qui m'attire et ce qui me plaît dans ce livre, c'est justement le fait qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Dans certaines histoires, notamment certains romans un peu classiques, on se doute un petit peu de comment ça va se passer à la fin. Ou bien il y a une grande aventure qui arrive et puis qui casse tout. Là, ce n'est pas une grande aventure. C'est beaucoup plus subtil. C'est vraiment une dégradation des relations où c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de la personne et puis on ne sait pas très bien pourquoi. En même temps, Rosetta Loy, elle laisse à ses personnages, en somme, le droit d'être quelqu'un. Et c'est comme si elle les lance dans la vie. Bon, elle tire les ficelles, ça c'est sûr, elle construit leur existence, mais ils ont une vie propre et ils ont une sensibilité extrêmement forte. Et c'est pour ça, je pense moi j'ai l'impression d'avoir vraiment un contact très, très personnel avec chacun de ces héros. Et chaque fois, j'ai envie de savoir un petit peu, mais alors quand même, comment est-ce qu'il va se débrouiller dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il part pas en voyage avec elle? Pourquoi est-ce que, après la dispute, il lui retéléphone pas? Enfin bon, des choses comme ça. C'est un peu trivial, comme j'en parle. Et dans le livre, c'est pas du tout trivial. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est justement ça qui fait l'intérêt du livre. Parce que elle dira jamais des choses aussi plates, Rosetta Loy.